Bien, nous allons dans la prophétie de Agée. Mais maintenant, on sait à peu près où c'est. Agée chapitre 2. Et nous allons ce matin regarder la deuxième prophétie de cet homme de Dieu. Donc nous lirons Agée, chapitre 2, et versets 1 à 9. Et avant d'entrer dans la lecture, il est bon de garder à l'esprit que ces prophètes souvent parlent dans un langage qui n'est pas un langage courant. Et donc il faut décompresser tout ça, il faut aller chercher à droite, à gauche, et c'est ce qu'on essaye de faire pendant ces messages. Je suis conscient qu'on pourrait faire plusieurs messages à partir de chaque prophétie, et peut-être on fera ça une autre année. Mais si vous avez des questions, des interrogations et tout ça, on peut les garder, soit quand on a des moments ensemble, soit le mercredi, on peut aborder ces choses-là. Il y a beaucoup de choses qui sont là, qui ne peuvent pas faire l'objet du développement ce matin, du dimanche matin. Mais il y a aussi une chose importante à garder à l'esprit, c'est qu'on ne regarde pas la prophétie d'Agée simplement pour l'acquisition de connaissances intellectuelles, pour savoir un peu plus de l'histoire biblique. Pourraient devenir des spécialistes d'Agée. Ça, c'est une possibilité, mais c'est une possibilité assez stérile. On cherche, on veut voir quel est le cœur de l'alliance de Dieu. Alors, ça semble un peu bizarre parce que dans le premier chapitre, c'est un peu, première prophétie, c'est un petit peu difficile à faire. On l'a déjà vu un peu. Dans le deuxième, ça va être plus clair et à mesure qu'on arrive vers la fin du livre, ça va être très clair. Vraiment Dieu est en train de dire à son peuple, et puis ça fera peut-être l'objet d'une prochaine série dans Zacharie. Alors c'est beaucoup plus long et beaucoup plus clair, beaucoup plus centré directement sur celui qui doit venir, le Messie. Donc Agée chapitre 2, et on va commencer au verset 1. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agée, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Josadac, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadac, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous êtes sortis de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Et donc on a ici la parole de Dieu et la deuxième prophétie d'Agée le prophète. J'ai intitulé ce message, la gloire de cette maison. Parce qu'en fait, c'est ce dont parle l'Éternel ici. Il est intéressant de souligner que continuellement, vous avez remarqué, il est mentionné l'Éternel des armées. Alors si nous étions, par exemple, en Afrique, je dirais tout de suite El Shaddai, parce que c'est très très commun, les gens aiment beaucoup utiliser ce mot-là, ça fait très très beau, c'est hébreu. En fait, c'est l'Éternel Tout-Puissant, le Dieu de l'Alliance dans sa toute-puissance, l'Éternel des armées, une façon hébraïque de dire cela. Mais venons à ce passage, venons à Agé lui-même. Nous sommes à Jérusalem et la ville est en ruine. N'oublions pas cela. La ville est en ruine, les remparts sont vraiment complètement mangés par les ronces. Un premier groupe de Juifs est revenu de Babylone suite au décret de Cyrus pour la reconstruction du temple. C'était il y a un moment. On a rebâti l'autel et on y offre matin et soir des sacrifices, comme il est indiqué dans la parole de Dieu. On a posé les fondements du temple, et puis l'opposition des adversaires s'est manifestée et a obtenu que le travail cesse. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et voilà maintenant 14 années qui passent sans que rien ne se passe. Inaction totale. Et maintenant, Dieu envoie deux prophètes. D'abord Agé, et puis juste en même temps, un peu décalé, Zacharie, et il les envoie dans le but de réveiller l'esprit du peuple et de ses responsables. Et en conséquence de la première prophétie d'Agé, la construction du temple reprend après 3 semaines. 3 semaines après cette prophétie. Et nous sommes maintenant, aujourd'hui, environ 1 mois après la reprise de la construction. Et la parole de l'Éternel vient une deuxième fois à Agé. Entre-temps, les adversaires se sont manifestés, ce que nous allons voir dans un instant. Et la deuxième prophétie d'Agé vient répondre à un problème qui pèse sur l'esprit des bâtisseurs. Et examinons en premier le problème des adversaires, parce qu'ils sont toujours là. Ils sont toujours là, mais maintenant ils se manifestent. Et donc c'est notre premier point que j'intitule « Qui vous a donné l'autorisation ?» C'est une question. Et il nous faut aller dans le livre d'Esdras pour voir un peu ce qui est derrière. Alors, Esdras, là encore un peu difficile à trouver. D'un certain côté, si vous trouvez Job, c'est un grand livre, c'est un peu avant. Ou alors si vous trouvez 2 Chroniques, alors vous avez Esdras juste après. Et on avait vu ça l'autre jour avec les jeunes. Et en Esdras 5, chapitre 3, verset 3, on peut commencer au verset 1, nous avons un peu l'arrière-plan de cette situation. Agé le prophète et Zacharie, fils d'Ido, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem, au nom du Dieu d'Israël. Alors, Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Josadac, donc c'est les 2 personnes qu'on voit depuis la semaine dernière, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Donc vous voyez, on est, pendant la semaine qui vient de se passer, en fait 3 semaines se sont passées. Mais, dans ce même temps, au début de la reconstruction, Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Shethar Boznaï et leurs collègues vinrent auprès d'eux et leur parlèrent ainsi. « Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ces murs ?» Ils leur dirent encore « Quels sont les noms des hommes qui construisent cet édifice ?» Mais l'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs, et on laissa continuer les travaux pendant l'envoi d'un rapport à Darius et jusqu'à la réception d'une lettre sur cet objet. Voilà un peu le fond. Alors, C'est très intéressant, les ennemis sont des Samaritains. On pourra parler à loisir, peut-être le mercredi, ou à bâton rompu, au sujet de d'où viennent les Samaritains, c'est intéressant aussi. Mais ils se sont déjà manifestés au début de la construction, 14 années précédemment. Et ils proposaient d'y participer. On trouve ça en Esdras chapitre 4. Ils sont venus, ils ont dit, mais nous sommes frères, en fait c'était plutôt demi-frères, on veut participer à cette construction. Et les Juifs ont refusé, parce qu'il fallait pouvoir tenir toute la lignée hébraïque, et les Samaritains ne pouvaient pas. Et devant le refus des Juifs, au début, juste au retour des Juifs, ses ennemis, ces Samaritains, avaient cherché à décourager le peuple. Puis, ils avaient obtenu de Babylone un décret qui obligeait d'arrêter les travaux. Et donc, on a eu ces 14 années d'interruption. Maintenant, le roi qui a publié ce deuxième décret, il est mort, et l'Éternel envoie sa parole, réveille l'esprit du peuple, la construction recommence, et les adversaires se manifestent de nouveau. C'est toujours ainsi. Et ce qu'ils font, ils leur demandent quelle est la légitimité pour reconstruire, alors que le décret du roi ne tient plus puisqu'il est mort, et puis ils prennent les noms de ceux qui sont impliqués. Alors bien entendu, ils vont envoyer une lettre, et si vous continuez dans Esdras chapitre 5, vous verrez la lettre qu'ils envoient, une lettre très, très classique, au roi, et ils demandent, et ils montrent que les Juifs ont dit, mais nous avons eu la permission de construire par Cyrus. Et donc il y a des recherches de fait, et effectivement Darius voit que Cyrus, son prédécesseur, un de ses prédécesseurs, avait donné l'ordre, et donc il va renvoyer une lettre en permettant que la construction continue, et en plus en la finançant d'après le tribut qu'il récupère de la Palestine, des Samaritains. C'est assez cocasse en fait, de voir que les adversaires ont voulu détruire l'œuvre, mais maintenant il faut qu'ils la financent. Il y a plusieurs leçons dans cette manifestation des adversaires. Quand l'œuvre de Dieu était arrêtée, les adversaires étaient absents. Le lambrissage des maisons individuelles ne les trouble pas. Il n'y a pas de problème pour eux. C'est l'avancement de l'œuvre de Dieu qui trouble l'ennemi. Et donc, il est important de ne pas considérer comme une bénédiction le fait de ne pas être attaqué. Ce n'est pas une bénédiction non plus, ce n'est pas une validation de notre valeur spirituelle d'être attaqué. Non, non. Mais l'ennemi n'a pas besoin de réveiller quelqu'un qui est endormi. Vous voyez ? Et quand il y a l'opposition, ça n'est pas nécessairement une indication que nous sommes dans l'erreur. On peut être dans l'erreur, mais ça n'est pas cela. Je m'explique dans le sens que tous ceux, dit la parole de Dieu, qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, subiront la persécution, seront persécutés. Et je me rappelle à l'époque du bloc soviétique, par exemple, il y avait pas mal de croyants de certaines dénominations, des gens qui se réclamaient du nom de Christ, qui disaient, parce qu'ils étaient mal enseignés, « Si nous ne sommes pas persécutés, alors nous ne sommes pas croyants. » Et c'était très, très flagrant qu'il y en a qui faisaient même des bêtises pour être persécutés parce que ça les validait comme croyants. Vous voyez un peu la situation? Alors on peut dire que c'était ridicule. Ces gens-là souffraient beaucoup. Et pour pas mal, c'était probablement de vrais croyants très mal enseignés. Donc là, en fait, ils ne souffraient pas pour leur foi. Ils souffraient pour leur bêtise. Donc il y a un équilibre à avoir là. Mais vous voyez un peu la situation, l'adversaire ne se manifeste pas quand on n'est pas occupé à l'œuvre de Dieu. Quand l'œuvre de Dieu n'est pas ce qui est vraiment la chose qui habite dans le cœur, L'adversaire n'a pas besoin de se manifester. Hein. Sa manière de penser, sa perspective se passe. Une autre leçon. L'adversaire est toujours prêt à participer à la construction du royaume de Dieu. Les Samaritains ont voulu bâtir le temple. Ah, ça, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Non, parce qu'ils n'étaient pas accrédités pour cela. Ils n'appartenaient pas au peuple de Dieu, parce qu'il y avait eu mélange des races à cette époque-là. Mais toujours prêt à participer. Et ça, c'est une alarme qu'il faut que nous mettions. Et quand il essuie un refus, il montre alors son vrai visage. C'est un adversaire. Si c'est un ami qui cherche à aider, et on voit les responsables voient qu'il n'a pas les capacités pour ça, ils vont lui dire non, tu ne peux pas faire ça, mais peut-être autre chose. Alors, la personne, si c'est un ami de l'œuvre de Dieu, il va dire, mais je suis content de pouvoir participer d'une manière ou d'une autre. Merci de m'avoir guidé. Sachant que si je veux faire quelque chose sans les dons pour cela, je vais faire du mal. Mais si c'est un adversaire, tout de suite il se manifeste comme un adversaire. Et ça, c'est quelque chose à souligner. Une autre leçon. Le succès de l'œuvre de Dieu peut bénéficier des situations politiques, de l'environnement dans lequel on vit. Mais elle ne dépend jamais des décrets des rois ou des efforts des hommes. Ça, c'est l'équilibre qu'il faut garder. Par exemple, à l'époque des Actes des Apôtres, le départ de l'Église de la Nouvelle Alliance, n'est-ce pas? Eh bien, les missionnaires, Paul et toute son équipe et d'autres, ont bénéficié des voies de communication qu'il y avait. Ils ont bénéficié du fait qu'il y avait une langue pratiquement universelle au niveau du commerce, d'une langue pratiquement universelle au niveau de l'administration. Mais il ne fallait pas se reposer sur ces choses-là. C'est pour cela que, encore l'autre jour, je suis passé à Vienne, juste au-dessous de Lyon. Eh bien, en 122, il y avait des grandes persécutions et des gens qui ont été mis à mort, des martyrs. Si on est français, on a entendu parler de Blandine. Blandine est morte à 18 ans à Vienne. Vienne en France, vous voyez. Et pourquoi est-ce que ça s'est répandu comme ça? Parce que le Seigneur avait fait qu'il y ait ces grandes voies romaines, qu'il y ait cette paix romaine qui permettait de bouger, de voyager. Donc, l'œuvre de Dieu peut bénéficier de choses comme ça, mais elle ne doit jamais dépendre de ces choses. Cyrus a publié un décret en faveur du temple, mais Cyrus est mort. Smerdis, ça c'est l'autre roi qui a suivi, il a interdit la poursuite de la construction. Mais Smerdis est mort, lui aussi. Et voilà que maintenant, on a Darius. Bon, il y en a encore d'autres au milieu. Mais on a Darius, et Darius qui va favoriser la poursuite de l'œuvre. Et dans la première vague d'opposition, a réussi à interdire l'œuvre. Cette fois-ci, le roi Darius la balaie de côté et il donne non seulement la permission de continuer, mais les moyens pour continuer. Où est la différence? Où est la différence? Tout simplement dans l'accomplissement du dessein de Dieu. Dieu a décidé que son dessein va avancer selon son programme, selon son calendrier, on pourrait dire. Et un roi va favoriser, l'autre roi va interdire, mais Dieu contrôle. Et cela, c'est quelque chose de très pratique pour notre vie, pour notre vie. Peut-être, parfois, on va avoir le cœur tout en chamade, on va être tout plein d'appréhension parce que les choses ne vont pas comme nous pensons qu'elles devraient aller. Gardons les regards sur Dieu. C'est lui qui a décidé ce qui se passe et ce qu'il a décidé qui se passe, se passera. Sans aucun retard, sans aucune véritable opposition. Même l'opposition, même les dispositions mauvaises de ses ennemis, il les utilise. Et c'est ce qu'on voit à la croix. Ce sont les Romains, ce sont les Juifs qui se sont ligués, n'est-ce pas ? Et c'est Dieu qui a fait ce qu'il voulait. Ce qu'il voulait. Alors, entrons dans la prophétie elle-même. Et le point que nous voulons regarder, là, je l'intitule « Le peuple dit ». Le peuple dit. Alors, en réalité, cette parole se trouve au début du chapitre 1, au verset 2. « Regardez, ainsi par l'Éternel des armées, ce peuple dit. » Et il y a une certaine phrase que le peuple se disait. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Mais ici, pourtant, il est bon de se pencher sur une chose qui est très fréquente, même parmi les vrais chrétiens. Et là encore, les Juifs qui reconstruisaient se disaient quelque chose. Cette fois-ci, c'était plutôt dans leur pensée. Mais penchons-nous sur quelque chose qui est très fréquent, même parmi les vrais chrétiens. Et c'est quelque chose de très simple. On a tendance à utiliser un jargon parmi nous. Les chrétiens utilisent ce qu'on appelle en français le jargon de Canaan. Ainsi, ce qui est dit est peut-être juste, pas toujours, mais assez souvent, mais la répétition automatique de cette chose la transforme en une sorte de slogan qui, en fait, perd toute signification réelle et spirituelle. Par exemple, « Oh, comment vas-tu aujourd'hui ?» Alors, « Je vais bien, par la grâce de Dieu. » C'est classique. Peut-être on l'utilise beaucoup moins en France que dans la zone francophone. Ou alors, « Le Seigneur est au contrôle. » Et ce genre de phrases, vous voyez, qui sont vraies, mais qui ont perdu toute force. Ce qui est vrai, ce qui est dit est vrai, mais la chose finit par ne plus avoir d'impact sur la manière de vivre. Si le Seigneur est en contrôle de toutes choses, alors pourquoi est-ce que je m'inquiète? Mais nous nous inquiétons. Et je me rappelle l'anecdote, c'est dans un des livres qu'on a publié, mais l'anecdote, c'est l'auteur, bien entendu, qui, sans se nommer, se décrit, quand il était étudiant en théologie. Alors c'était une institution de formation résidentielle et à midi, tous les étudiants se retrouvaient au réfectoire pour manger. Alors, vous connaissez ces choses-là. Et ce jour-là, le maître d'études avait demandé à cet étudiant, l'auteur en particulier, de rendre grâce. C'est un honneur vraiment très très important devant tous les autres. Et voilà que ce monsieur, qui maintenant est un pilier dans l'Église de Christ, il commence à rendre grâce avec beaucoup d'éloquence et très spirituel et tout, et remercie le Seigneur pour les bonnes choses qu'il a préparées pour son peuple et tout, et tout, et tout. Enfin, vous comprenez ça. Et puis, Amen, dans le nom du Seigneur Jésus, Amen, et il ouvre les yeux, et dans son assiette, c'est la chose dont il a vraiment horreur. Il fait, oh! Vous voyez comment les belles choses spirituelles n'ont plus d'impact sur la vie. Bon, c'est pour nous faire un peu sourire, mais c'est exactement cela. Et nous avons ça parmi les croyants, dans le cas de l'Église. C'est un slogan, et cela est très courant, c'est vrai, mais c'est stérile. Et il nous faut faire attention à cela. C'était le cas au temps d'Agé, c'est le cas aujourd'hui. Mais Dieu entend ce qui est dit. Et quand il envoie son serviteur, il le charge d'un message qui est en prise directe avec la réalité. Vous voyez comment il répond à notre besoin. Nous disons des choses qui n'ont plus de réalité dans notre vie, souvent. Mais Dieu, quand il vient, il va parler directement. Premier chapitre, on l'a vu. Ce n'est pas le temps de bâtir la maison de l'Éternel. Le temps n'est pas venu. Mais quand est-ce que le temps est venu? Dites-moi. Et le Seigneur vient, mais il dit, si ce n'est pas le temps, est-ce le temps pour vos maisons? Donc nous avons cela. Et il est grand temps. Oui, en fait, le Seigneur brise la logique humaine qui emprisonne son peuple. Et il est grand temps de revenir à ce point. Le prédicateur dans son message et le croyant dans ses échanges doivent dire « Si vous êtes ce que vous dites être, et si Dieu est celui que vous dites qu'il est, alors vous ne pouvez pas vivre comme vous vivez. » Il doit y avoir toujours ce mécontentement chez le croyant, avec la situation. Parce qu'il veut vivre à la perfection. Déjà, il est parfait en Jésus-Christ. Et c'est là qu'il y a cette tension entre comment on a dit, déjà et pas encore. Mais on ne peut pas vivre comme nous vivons. Oui, déclarons les merveilles de la parole de Dieu et de son salut, mais qu'elles aient un impact dans la vie du croyant. Il est citoyen d'une nouvelle patrie. Une conséquence de cette utilisation du jargon est qu'on finit par créer une culture ou une sous-culture que l'homme du monde ne comprend plus. On arrive dans une assemblée et les choses qui sont dites, oui, on comprend les mots, mais on ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire. Et il lui faut devenir religieux pour pouvoir suivre le groupe. Nous possédons la grande réponse à son mal. C'est-à-dire en Jésus-Christ, il est le sauveur des pécheurs. Mais l'homme n'est pas touché car il ne comprend pas. Et nous ne le comprenons pas non plus. Parce qu'on est dans un monde irréel, virtuel. Et quand il nous comprend, c'est-à-dire quand il comprend notre jargon, alors il commence à suivre la même voie qui ne touche plus la vie réelle. Et c'est intéressant de voir les gens qui commencent à... ça m'avait marqué une fois dans notre cheminement, pas ici en France, mais quelqu'un vient dans l'assemblée et il observe, bien sûr. Et au bout d'un moment, il a compris que s'il dit certaines choses, s'il fait certaines choses, il va être accepté. Et qui ne veut pas être accepté? Et alors, cette personne a commencé à s'habiller, alors qu'il venait d'un milieu très défavorisé, il commence à s'habiller avec un costume, trois pièces. Alors, c'était parce que tout le monde le faisait pratiquement dans l'assemblée, vous voyez. Et donc, si on veut accepter, il faut ça. Sauf que le costume que ce cher ami avait, il était vert pistache. Alors, ça créait certaines réactions dans l'assemblée. Et j'étais personnellement assez triste que si c'est tout le message qu'il a reçu de nous, alors vraiment, il faut qu'on se repente devant le Seigneur. Mais on a ici, vous voyez, le peuple se dit des choses, mais Dieu écoute. Et il faut faire attention. Et dans sa grâce, il vient briser ces carcans que nous nous mettons. Un deuxième point par rapport à cette prophétie que Haggai donne ici, et je l'intitule « Cette maison ne paraît-elle rien ?» C'est ce que nous avons au verset 3, regardez. « Quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première ?» Ça, c'est le premier temple. « Et comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est ? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux ? Cette maison ne paraît-elle rien ?» Alors, venons à la question spécifique de cette deuxième prophétie. C'est vraiment ce que Dieu veut dire à son peuple ici. En fait, la chose commence bien avant. Et il faudra aller dans Esdras chapitre 3 pour lire l'arrière-plan. Quand nous lisons donc en Esdras 3 qu'il y a eu des grandes réjouissances parmi le peuple quand l'autel a été rebâti et que les fondements du temple ont été posés. Grande réjouissance. Ça, c'était il y a 14-15 ans. Avant. Mais présent ce jour-là, il y avait des gens très âgés, des gens qui avaient facilement 80 ans, minimum. Ça aurait pu être quelqu'un comme Daniel, sauf que Daniel est resté à Babylone. Et ces gens-là, ils avaient vu le premier temple, ils avaient vu la gloire du premier temple. Ils étaient probablement tout petits. Donc impressionnés. Et ils se lamentaient, car les fondements qu'on venait de poser, franchement, ça ressemblait à rien du tout, à côté de cette maison. Alors, bien sûr, il y avait le folklore de l'ancien temps, hein. Ils étaient tout petits, ils étaient impressionnés, maintenant ils sont âgés, ils voient le truc qu'on fait, c'est rien du tout. Et nous sommes maintenant donc 14 ans plus tard, et la construction recommence. La plupart, enfin non, tous ces vieux ont disparu. mais pas leurs paroles, pas leurs lamentations. Le peuple reconstruit avec zèle, on a vu ça, mais le souvenir de ses propos, le souvenir de ses lamentations les travaille et ils courent le risque de se décourager. Parce qu'effectivement, le travail, le temple est tout petit. Il n'est pas glorieux, il est entouré de ruines encore. Les murs ne sont pas relevés, ça sera le temps de Néhémie, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi Dieu leur envoie un nouveau message par Agée. Moins d'un mois plus tard, il va envoyer Zacharie pour continuer, pour appuyer encore plus sa parole. Et Zacharie vient avec beaucoup plus de détails. Qu'est-ce que Dieu dit à son peuple? Et le mot crucial ici, c'est le mot « paraître ». Paraît. Telle qu'elle est, cette maison ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Dieu confronte son peuple directement avec la réalité. Oui, le peuple est animé d'un nouveau zèle qui vient de Dieu, n'oublions pas. Oui, le peuple se donne à la reconstruction et la chose avance. Les murs montent. Mais leur réflexion et leur perspective se bornent toujours à la dimension humaine, à la dimension physique. L'ancien temple était impressionnant et celui-ci paraît comme rien. Et physiquement, matériellement, c'était vrai. N'est-ce pas toujours le problème? Le passé doré, l'avenir prometteur, mais toujours la mesure de l'homme. Et cela met en danger le présent. Le premier temple était certes impressionnant. C'était le temple de Salomon. Mais cela n'avait pourtant pas empêché les Juifs de le remplir d'abominations au pluriel. Et quand on va dans Ézéchiel, on s'aperçoit que le temple était rempli d'idoles. Il y avait des sacrifices, même des sacrifices humains qui étaient faits dans le temple de l'Éternel. Nous avons un parallèle dans le Nouveau Testament en Luc 10. Le même esprit. Le Seigneur envoie 70 disciples pour prêcher. Vous vous rappelez? Et ils reviennent, ils sont remplis de joie, ils sont remplis d'émerveillement parce que leur mission a été un succès. Et ils disent, vous vous rappelez, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Et le Seigneur vient les reprendre, les avertir. Il dit, attention, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Ne vous réjouissez pas de ce que vous pouvez faire pour Dieu, mais réjouissez-vous de ce qu'il a fait pour vous. Parce que ça ne pourra jamais être enlevé. C'est la même chose. Et comment Dieu répond-il à cette situation et à cet esprit? C'est notre prochain point. « Je suis avec vous ». Regardez au verset 4. « Fortifie-toi, fortifie-toi, fortifie-toi et travaillez, n'abandonnez pas, car je suis avec vous. » Je suis avec vous. Et si on veut rendre la chose frappante, on peut dire que Dieu répond par Dieu. C'est la seule réponse qui compte. Oui, vous avez été rebelles, vous, peuple du Seigneur. Mais ne restez pas affligés, car je suis avec vous. Je vous ai emmenés en captivité, mais je vous ai ramenés. Oui, vous avez été découragés, vous avez abandonné l'œuvre pendant 14 ans, et vous êtes occupés de votre aise. Mais ne soyez pas prisonniers de cet esprit, car j'ai réveillé votre esprit, dit l'Éternel. Oui, vous avez été habité d'un nouveau zèle, l'œuvre avance, mais ne fondez pas votre joie sur vos efforts, dans vos efforts, car, franchement, cette maison, en ce qui concerne le bâtiment, ne paraît rien. C'est petit. Où est la solution? Où est la solution? Eh bien, levez les yeux, regardez, je suis avec vous. Et comme il continue à dire, « Ma fidélité n'a pas changé. » C'est intéressant qu'il parle de la sortie d'Égypte. Et dans la sortie d'Égypte, après la sortie d'Égypte, vous vous rappelez comme quoi ils ont été instruits de bâtir ce monument à la gloire du Seigneur. Et quand ils sont arrivés en Canaan, de l'autre côté du Jourdain, il a fallu mettre encore un monument. Et puis Samuel a mis un autre monument. Et vous vous rappelez comment il était intitulé ? Ébénézer, la pierre du secours. Jusqu'ici, le Seigneur, l'Éternel, a été notre secours. Donc on lève les yeux, on regarde vers l'Éternel, car sa fidélité n'a pas changé. Vos ressources sont limitées, vous faites une petite maison, mais l'argent est à moi, l'or est à moi, dit Dieu. Le peu qui est au fond de la cruche de la veuve, ça suffit, car je suis avec vous. C'est ce que le Seigneur dit, combien nous avons besoin de cette vérité. En tant qu'être humain, on a toujours tendance à regarder, à mesurer à la manière humaine. Or, Dieu ne mesure jamais comme cela. Et puis, il continue, et j'intitule cet autre point d'une manière un peu bizarre. Je, point de suspension. Et je n'essaye pas de faire le malin en faisant ça, en disant ça. Mais je cherche à transcrire l'esprit de ce que Dieu dit à son peuple. Vous avez du zèle et vous travaillez pour mon royaume. Et la chose avance. Mais votre cœur continue d'abriter la pensée qui vous pousse à douter de la réussite. Parce que la mesure est mauvaise. La mesure n'est pas la bonne. Ce n'est pas que vous doutez de Dieu. Non, quand même, on ne peut pas douter de Dieu. En fait, votre problème, dit Dieu à son peuple, c'est que vous occupez tellement la totalité de votre perspective que Dieu n'y a pas de place. Et combien de fois, surtout si on a des capacités d'organisation, on est tellement obnubilé par ce qu'il faut faire qu'on oublie qui est-ce qui va le faire. Et c'est Dieu qui fait. Dieu n'a plus de place. Ce qui va durer, le vrai temple de Dieu, ce n'est pas ce que vous êtes en train de bâtir. Ce n'est pas ce que vous pouvez faire, et encore moins, ce n'est pas ce que les autres ont fait autrefois. Ce temple si glorieux de Salomon, il a été détruit parce que le peuple en même temps était rebelle. Ce qui est important, ce qui compte, c'est ce que Dieu va faire. Et petit à petit, Dieu pousse, s'approche vers cela. Et Dieu commence à montrer ici, dans la prophétie d'Agée, ce qu'il va faire. Il le fera avec plus de clarté quand on passe à la quatrième prophétie d'Agée, et surtout à travers Zacharie. Quand on voit Zacharie, c'est assez clair. Mais il commence déjà ici. Et franchement, il n'y avait aucun moyen que ces croyants de l'Ancien Testament comprennent de quoi il s'agissait. Absolument impossible. Mais l'important n'est pas tant de comprendre ce qui se fera, que qui le fera. Et une petite illustration que j'ai déjà utilisée, mais l'enfant qui est en vacances, qui joue dans la rue, tout le matin, sans se soucier de quoi que ce soit, il ne s'inquiète pas de ce qui sera sur la table. Pourquoi ? Parce qu'il a confiance dans les parents, il connaît ses parents, il sait qu'il y aura quelque chose. Pourquoi ? Parce que ce sont mes parents. Ce sont ceux qui peuvent vaincre le monde entier, n'est-ce pas? C'est cela. Qui le fera? Dieu va faire quelque chose. Cela suffit, car ce qu'il fera ne sera jamais détruit. Allons en Hébreux, chapitre 12. Hébreux, chapitre 12, versets 26 et suivants. Lui, c'est Dieu, dont la voix ébranla alors la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Il parle du déluge et de ce qui s'est passé avant. Et il fait maintenant cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Il va ébranler tout ce qui existe. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faite pour un temps, alors que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et quand nous venons dans la prophétie d'Agée, la deuxième prophétie d'Agée, regardez, je suis avec vous, je reste fidèle à l'Alliance. Même quand vous étiez au fond de l'Égypte, j'étais avec vous. Car ainsi, verset 6, parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre. Vous voyez, c'est l'annonce de la nouvelle alliance, c'est l'annonce de la solution que Dieu a pour le peuple. Et ce n'est pas ce temple qu'ils sont en train de construire qui va être de nouveau détruit un jour. Qu'est-ce que Dieu va faire? Eh bien, en fait, il va accomplir les termes de l'alliance de grâce dans la dimension nouvelle qui va ébranler toutes les nations. Ce temple que les Juifs rebâtissent, il y aura toujours au milieu du temple un mur de séparation. Et les païens, les nations, c'est le mot païen, c'est le mot nation, les nations ne pourront pas passer de l'autre côté de ce mur, quoi qu'ils fassent. Les Juifs eux-mêmes arrivaient jusqu'à un certain point dans le temple et il y avait ce voile épais qui barrait l'accès. Et seul le souverain sacrificateur, et pas n'importe comment, ni n'importe quand, pouvait passer de l'autre côté. Une fois là, avec le sang, vous voyez. Mais ce que Dieu bâtit, c'est autre chose. Ça va ébranler les nations, toutes les nations, dans le sens que ça va toucher toutes les nations, alors que ce temple-là ne touchait pas les autres nations. Et regardez comme il continue à dire, « J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison. » N'est-ce pas l'annonce de la nouvelle alliance? Quand les trésors, ce qu'il y a de mieux dans toutes les nations du monde, va venir apporter ses louanges à Dieu, le vrai Dieu. Ça vient de l'œuvre qu'il fait dans les cœurs. C'est exactement cela. Il accomplit les termes de l'Alliance. Les cœurs seront réveillés comme l'a été le vôtre. Et quel est le cœur et l'essence de cette œuvre? Ça, c'est la question qui se pose. Et c'est notre dernier point que nous voyons dans le dernier verset qu'on regarde. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Je donnerai la paix. Ici, c'est tout simplement l'annonce de la personne et de l'œuvre de Christ. Parce qu'il n'y a qu'en lui qu'est la vraie paix. La paix pour l'homme et la paix pour Dieu lui-même. Allons en Colossiens, chapitre 1. Un passage très clair et très beau en fait. Colossiens, chapitre 1. Regardez versets 19 et 20. Si on commence au verset 19, « Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en Christ, en son Fils, le Fils de son amour. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix, comme on en a entendu parler tout à l'heure. » L'objet de la colère est frappé, la transgression est expiée, le souvenir du péché est ôté. Quand le Seigneur Jésus, revêtu, chargé du péché de son peuple, est frappé et retranché. Et ça, c'est quand il meurt, la mort des pécheurs, lui qui n'est pas pécheur. Une fois la colère de Dieu assouvie, il ne reste que la paix. Quand le créancier est satisfait et payé, il n'a plus de raison d'être en colère. Christ meurt et Dieu peut donner la paix. Il est juste et vrai de dire que la paix est une chose inconnue pour le monde des hommes. Alors, je sais qu'on parle de toutes ces années depuis la dernière guerre mondiale où il y a eu la paix dans le monde. Mais il faudrait un jour qu'on regarde un peu le résumé de l'histoire de ces dernières, combien d'années ça fait, 50, 60 ans, c'est ça? N'est-ce pas? Et il n'y a jamais eu la paix dans le monde. Ça n'a pas été des guerres mondiales depuis, mais il n'y a jamais eu la paix dans le monde. Le monde ne connaît pas la paix. On se donne la paix, on se promet la paix, on recherche la paix, mais il n'y a pas de paix dans cette paix. Parce qu'il faut faire des traités, et même les traités sont compris de façon différente par l'un et par l'autre. Le Seigneur Jésus, quant à lui, il dit, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde donne, parce que le monde donne sa paix, mais il est prêt à la reprendre. Mais lui, il donne sa paix. Et il est juste de dire que, très souvent, il n'y a pas de paix dans le vécu réel des enfants de Dieu. Il faut faire face à cette réalité. On dit que Christ a tout accompli, mais on doute que ce qu'il a accompli soit une réalité. C'est pour ça qu'il n'y a pas tant d'assurance du salut qu'on pourrait s'attendre. La vision de l'œuvre de Dieu en Christ que beaucoup d'enfants de Dieu entretiennent est trop petite, trop mondaine. C'est une paix qui peut être prise. C'est une paix que je peux détruire, que je peux mettre en danger par mes chutes. N'est-ce pas la perspective qu'on a? Trop souvent. Trop souvent. Si je suis vraiment croyant, si la vie de Dieu par la foi m'anime, alors en Jésus-Christ, mon péché est ôté. Et comme on dit en Afrique, un point, un trait. Que dit Paul? Romains 8, verset 1, « Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. » Et on a du mal avec ça. On a du mal avec ça. Parce que notre perspective souvent se centre nous-mêmes. Il n'y a plus rien, mes amis, que ce petit moi peut faire ou ne pas faire qui pourra ressusciter mon péché. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes parfaits. Vous le comprenez. Mais le péché a été ôté. Il n'y a plus aucune condamnation. Dieu donne la paix dans cette maison. Qui est en fait Jésus-Christ. C'est Dieu qui donne la paix. Et se pouvait-il que beaucoup d'activités effrénées qu'on voit dans le monde chrétien viennent du fait qu'on n'a pas vraiment saisi la puissance, la puissante paix divine totale qu'il y a eu en Jésus-Christ. Dieu en Christ est apaisé envers son peuple. Et on pourrait poser la même question en ce qui concerne beaucoup des doutes des chrétiens. Si je doute, c'est grave. Non pas parce que ça me déstabilise, mais parce que ça met une tache sur le nom et sur l'œuvre de Christ. Se pourrait-il que quelque chose fasse que ce qu'il a fait n'est pas une totale... validité. Et Paul termine son chapitre 8, vous le savez, qu'il a l'assurance, il est persuadé que rien, et il va dans toute la description de ce monde, il n'y a rien dans ce monde qui peut séparer l'âme sauvée de ce Jésus-Christ, de ce Sauveur. Absolument rien. Voilà ce que Dieu envoie Agé dire à son peuple. La maison que vous construisez, elle paraît petite. Elle paraît petite. Et vous n'allez pas faire grand-chose de plus que ce que Salomon a fait avec. Mais moi, dit l'Éternel, c'est ce qu'il faut regarder. Moi, je vais faire quelque chose. Et nous voyons, le jour vient où celui qui est plus grand que le temple entre dans le temple. Et il est même chassé de Jérusalem. Il est crucifié hors les murs. C'est-à-dire qu'il est rejeté, mais ce jour-là, la séparation est détruite totalement. Le voile du temple est déchiré de haut en bas. Levons les yeux, donc. Lève les yeux, peuple du Seigneur. Et regarde, il donne la paix dans cette maison, dans ce lieu, en Jésus-Christ. Et ça, c'est le sujet de la réjouissance du croyant, quand Dieu l'habite par son esprit. Amen.